Ariel Lévy, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'avoir accepté cet entretien pour Yedia. Alors, Ariel Lévy, vous êtes un personnage très, j'ai envie de dire, incontournable en Israël avec de nombreuses casquettes. J'ai un petit peu de mal à vous présenter en fait, mais je vais raconter comment moi je vous ai connu il y a plus de 20 ans en Israël. Je vous ai connu en tant que sofer. Vous écriviez un sefer Torah. Nous étions venus vous voir à l'époque avec la petite Anaël que tout le monde connaît. Ses parents, Zichrona Levracha. Oui. Et puis, je vous ai connu également comme le bras droit du Rav Mordechai Eliyahou. Vous avez pendant des années été à ses côtés et été un des porte-parole de la communauté francophone en Israël auprès du Rav. Et puis, j'ai eu l'honneur et la chance de travailler avec vous au sein du premier média audiovisuel hein, de Guy Sen. Vous étiez un des directeurs de la chaîne. Et puis, j'ai suivi votre parcours jusqu'à aujourd'hui où vous êtes le président de l'organisation Sauveteurs sans frontières, dont on va parler ensemble, qui est une organisation humanitaire. Ariel, est-ce que j'ai oublié des choses? Vous êtes également auteur de livres, vous êtes père, grand-père, arrière-grand-père, vous êtes rave. Il y a d'autres casquettes que j'ai oubliées?
Non, je crois que ça suffit largement. Vous savez, la Gemara, elle dit ne jamais dire toutes les bonnes choses d'une personne en face de lui. Il faut en enlever quelques-unes.
Bon, d'accord.
Alors d'abord, je vais dire qu'il y a si tu me permets, Emmanuel, c'est pas que je veux te contredire, mais bon, c'est un peu exagéré. J'ai essayé de faire quelques bonnes choses dans ma vie. C'est pas évident. Vous savez, le travail d'un être humain, pas seulement d'un juif, c'est toujours d'essayer d'être meilleur. On n'est pas né parfait, on est né avec beaucoup de défauts. Et notre travail sur Terre, c'est essayer de rectifier ces défauts. Si c'est pas pour nous, au moins pour nos enfants, ou pas pour nos enfants, peut-être pour nos petits-enfants. Il faut savoir que notre monde, malheureusement, tourne pas très bien. Il va de plus en plus mal. Et notre devoir, c'est d'essayer un peu de rectifier le mal que nous faisons, même sans remarquer des fois. De boire dans un verre en plastique, on fait du mal au monde. De rouler trop avec notre voiture, on fait du mal au monde. Et de couper un arbre qui est l'oxygène pour l'être humain, on fait du mal. Et on en fait sans arrêt, sans remarquer. Et surtout, le plus gros mal, je pense, qu'on fait, c'est avec, malheureusement, avec notre langue. On ne fait pas assez attention très souvent à ce qu'on dit ou à ce qu'on ne dit pas. Et ça aussi, c'est, comme dit le Talmud, Chaim Bemavet Beyad Alashon. La mort et la vie sont entre les mains de la langue.
Sur le bout de la langue. Alors, on va essayer de dire que des bonnes choses durant cet entretien, Ariel. On va essayer de faire passer des énergies très positives et des messages très positifs vers nos auditeurs. Ariel, donc, vous aviez une carrière, en tout cas, vous avez, comme vous dites, tenté de faire beaucoup de bonnes choses autour de vous, en tout cas d'éclairer un petit peu le monde autour de vous. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que cette mission que vous vous êtes donnée avec cette association, cette organisation Sauveteurs sans frontières, qui existe maintenant depuis l'an 2000, si je ne me trompe pas, et qui rassemble,
depuis l'an 2000, exact.
Voilà, qui rassemble plus de 1300 secouristes en Israël, qui sont tous bénévoles et qui donnent de leur temps pour sauver des vies, en fait. Alors, votre mantra, votre leitmotiv, c'est qui sauve une vie, sauve l'humanité, hein, qui est ce mantra, qui est cette affirmation du Talmud, qui est très importante. Vous êtes intervenu dans le monde entier, hein, on va dire dans la plupart des pays où il y a eu des catastrophes. En tout cas, vous vous êtes précipité avec vos équipes, que ce soit à Haïti, en Birmanie, en Ukraine, partout. Et puis, vous travaillez aussi en Israël. Vous êtes là sur les lieux d'attentats. Vous êtes là à Sderot quand il y a des roquettes qui tombent sur les habitants de Sderot. Comment vous faites avec une si petite équipe, en fait, j'ai envie de dire, pour mener toutes ces missions?
Alors, en fait, vous avez... Très bien, tu as très bien résumé et je vais ajouter quelques points. En fait, en effet, on a commencé en l'an 2000. Tu as dit dans ton ouverture de cette interview que j'étais proche du Rav Mordechai Eliyahou et c'est comme ça que ça a commencé en fait. L'histoire était très simple. J'étais dans le bureau du Rav. J'étais déjà secouriste depuis plus de 10 ans déjà au Magen David Adom, bénévole. Et sont rentrés deux médecins dans le bureau du Rav, très tristes. C'était un dimanche. Et ils ont raconté au Rav que l'attentat qu'il y avait eu le vendredi, deux jours avant, où est décédée Rina Didovski, Zichrona Livracha, c'était la première femme qui a été tuée par des terroristes dans la deuxième intifada. Ils ont raconté au rave que s'ils avaient le matériel sous la main qu'il fallait, ils auraient pu lui sauver la vie. Et là, le rave s'est tourné vers moi et m'a dit, est-ce que comment ça se fait qu'il n'existe pas en Judée-Samarie ce système ou cette organisation qu'on appelle, qui est dans le monde entier, qui s'appelle Hatzalah, qui a été créée dans les années 60 en Amérique. Ça existait déjà à Jérusalem, Ashdod, Nebrak à l'époque, mais en Judée-Samarie, il n'y avait pas cette organisation. Et donc, le rave m'a dit, est-ce que ça n'existe pas? Je lui ai dit non. Il m'a dit, alors, il faut le créer. Et comme j'étais un vrai élève du rave, quand le rave dit quelque chose, je le fais sans poser de questions. Et donc, je me suis mis au travail à créer cette organisation, au début avec 12 premiers secouristes. Et très vite, ces 12 sont devenus quelques centaines. Et c'était encore une fois le rave, fin 2004, qui m'a dit qu'il fallait absolument qu'on exporte notre savoir-faire à l'étranger. Tout simplement parce que le rave m'a dit, c'était, si vous vous rappelez, le tsunami. C'était une des plus grosses catastrophes naturelles qu'on a connues, je pense, les 50 dernières années, où il y avait plus de 200 000 blessés, plus de 200 000 morts. C'était une énorme catastrophe naturelle. Et le rave m'a dit, alors vous partez. Et puis je ne comprenais pas la question du rave, parce que pour moi, j'étais concentré que sur Israël à l'époque. Nos secouristes, en fait, le système, c'était tout simplement d'équiper des secouristes ou des médecins avec du matériel médical et les équiper avec un beeper ou un talkie-walkie pour les informer d'un événement qu'il y avait dans les environs où ils étaient. Et donc, plus on serait nombreux et plus il y en aurait qui seraient proches d'un événement et plus le temps d'arrivée d'un premier secouriste sera réduit. C'est-à-dire, c'est pas qu'on remplace les ambulances du Magen David Adom, mais on essaye d'arriver beaucoup avant l'ambulance, parce que l'ambulance, ça lui prend 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes à arriver, ça dépend de l'endroit où c'est.
Et vous?
Mais nous, notre secouriste, il est déjà sur place. Nous, notre secouriste, il est déjà dans les environs, parce que où
En
il
combien
habite
de
pas loin,
temps?
où il travaille pas loin. Aujourd'hui, on est dans une moyenne d'à peu près 2 minutes 50 secondes. C'est un score mondial. C'est-à-dire, le premier secouriste qui arrive chez quelqu'un qui a fait un infarctus, un accident de voiture, un attentat, le premier secouriste qui arrive sur les lieux, c'est à peu près entre 0 et 2 minutes 50. Donc,
Incroyable.
ça sauve des vies. Il n'y a même pas de quoi discuter. Vous savez, j'ai rencontré dernièrement un médecin urgentiste du sud de la France. Et on l'a rencontré en Ukraine quand on a fait notre opération. Et quand je lui ai raconté ça, il était comme un fou. Il m'a dit, mais nous, ça n'arrive pas que notre ambulance, elle arrive moins de 12 minutes. Le temps d'arriver au lieu où se passe la catastrophe. N'importe quel événement.
En fait,
Donc quand on parle de 2 minutes
c'est
50.
intéressant parce que on a le sentiment que la notion du temps, en fait, vous prenez complètement conscience de cette notion du temps quand vous êtes sauveteur, quand vous êtes dans l'urgence. Et cette notion du temps, elle est fondamentale. Chaque seconde de la vie compte, en fait.
Il faut savoir qu'on a en médecine d'urgence, on dit qu'il y a les 5 minutes d'or. Okay, les 5 premières minutes d'un AVC, d'un infarctus, d'un accident de voiture grave, d'une hémorragie grave, on a 5 minutes pour stopper la dégradation du blessé ou du malade. Dès qu'on dépasse les 5 minutes, chaque 30 secondes enlève plus de 10% de chances de lui sauver la vie. Donc, c'est sûr que plus on arrivera rapidement, et des fois, c'est des gestes, vraiment des gestes que n'importe qui peut faire. C'est pas toujours on parle pas toujours d'opérations sur terrain. C'est pas toujours des choses extraordinaires. Des fois, c'est des choses très simples. Stopper une hémorragie, n'importe quelle personne peut la faire, mais il suffit qu'elle soit informée et qu'elle puisse arriver très rapidement sur les lieux. Et donc, comme nos secouristes, en plus de leur savoir-faire, ils ont beaucoup d'expérience, et en plus, on leur donne un kit très sophistiqué qui est dans le coffre de la voiture. Donc, dès qu'ils arrivent, c'est comme une ambulance qui est arrivée en 2050, et donc ça sauve des vies. Tous les jours, des dizaines de vies.
Alors, Ariel Lévy, j'ai envie de vous demander, racontez-nous un souvenir d'une intervention qui vous a marqué particulièrement. Je sais que vous vous êtes rendu vous-même dans différents pays du monde, sur différents lieux de catastrophes naturelles ou de guerres, ou de lieux de guerre comme en Ukraine. Quel est le souvenir un des souvenirs qui vous a le plus marqué?
Il y en a beaucoup, mais je pense d'abord peut-être parce que c'est le plus proche. Je pense, j'ai pas sauvé une vie. C'était pas un événement où j'ai sauvé une vie. Quand j'étais en Turquie, il y a combien de temps? Je crois que c'est il y a 3 mois, 2 mois et demi, quand il y a eu le tremblement de terre. J'étais là-bas. Si on était déjà 10 jours après le tremblement de terre, donc il y avait plus tellement après qu'on a soigné énormément de personnes. Dans notre hôpital de campagne et dans l'hôpital de Adiyaman, cette petite ville qui a été complètement rasée. Et Un matin, vient vers nous une personne et nous dit, c'est vous les Israéliens? Donc je lui réponds oui. Il me dit, je vous en supplie, on a besoin de vous, on a besoin d'aide. Je lui dis, ok, maintenant moi je savais que 10 jours après, même s'il y avait quelqu'un qui était sous les décombres pendant 10 jours, c'est sûr qu'il est plus vivant. Donc je lui dis de quoi il s'agit. Il m'a dit, non, non, venez, venez avec nous, j'ai besoin de votre équipe. Donc, ok, je prends tout le monde, je leur dis, allez, on y va. On roule 3 minutes en voiture et on arrive devant un bâtiment qui était complètement écroulé. Et là, je vois une personne en train de pleurer. Je lui dis que, bon, on avait, heureusement qu'on avait un de nos bénévoles qui parlait turc, donc il n'a pu être intermédiaire. Et en fait, il me traduit, il me dit, sa femme et sa fille sont en dessous. Il sait qu'elles ne sont plus vivantes, mais il vient de repérer la cuisine de sa maison. Et il sait que dans la cuisine, sur le frigidaire, était aimantée la photo de sa femme et de sa fille. Et comme il a perdu aussi son téléphone, donc c'est en fait le seul souvenir qu'il peut avoir de sa femme et de sa fille, c'est cette photo. Je lui dis, ok, et qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord? Il dit, comme il a entendu que vous arrivez, vous êtes plus fort pour creuser, vous savez comment enlever des. Donc il veut que vous l'aidiez, il va vous dire à peu près où c'était, pour enlever ces pierres qu'il y a ici, pour essayer de trouver la photo.
Tout ça pour une photo, j'ai envie
Alors
de
on s'est
dire.
mis au... Tout ça pour une photo. Mais on s'est mis au travail. Voilà. On savait qu'on n'allait pas sauver une vie, et on a trouvé la photo. Et je pense que ce moment où il m'a enlacé pour me dire merci, il n'arrêtait pas de pleurer, d'un coup j'ai réalisé que cet homme a perdu le plus cher qui existe au monde, c'est-à-dire sa femme et sa fille, sa maison, sa voiture, son téléphone, tout. Il a tout perdu. Il avait sur lui que ses habits, c'est tout ce qui nous restait. Et on a réussi à lui amener quelque chose. En fait, c'est à ce moment-là où j'ai réalisé que ce qui lui restait maintenant, c'est que cette photo. Et on l'a aidé à la retrouver. Alors, comme je dis, on n'a pas sauvé une vie, mais je pense qu'on a fait ici un geste qui était tellement humain, tellement, tellement. Cet homme peut-être revit une petite partie de sa vie et revenu grâce à cette action qu'on a faite. C'était dur, il faisait chaud. Et pendant 3 heures, on a travaillé dur pour enlever des pierres. Et donc, ça, c'est une belle histoire. Il y a encore aussi une très belle histoire qu'on a eue au Sri Lanka où on avait mis un bébé au monde dans la boue et entre les arbres et l'eau qui continuait à gicler partout. Et c'était la nuit, on ne voyait rien. On avait nos torches sur les fronts. On a mis ce bébé au monde. Et quand le bébé est né, il a crié, il y a eu le premier cri. Ça a été le plus beau cri que j'ai entendu de ma vie. Et là, tout d'un coup, on a entendu des hurlements à ce qui était à 20 mètres de nous. Mais comme on ne voyait pas, on ne savait pas qu'il y avait beaucoup de monde pas loin de nous. C'était en fait toutes les femmes du village qui attendaient la naissance. Et dès qu'ils ont entendu un murmure, dès qu'ils ont entendu le bébé murmurer, ils sont tous mis à faire des genres de, comme chez nous on fait les lilili, chez eux c'est une autre façon de crier cette joie. Et le père est venu vers moi et il m'a dit, dis-moi d'où vous venez. Donc je lui ai dit qu'on venait d'Israël. Il m'a dit, quel est le prénom le plus fréquent chez vous? Je ne sais pas pourquoi est sorti de ma bouche Moshe. Donc il m'a dit, je vais appeler mon fils Moshe.
Très beau.
Et donc on a un petit Moshe au Sri Lanka qui a été appelé Moshe parce qu'on l'a mis au monde et on lui a sauvé la vie.
Formidable. Alors, on dit que l'éducation, c'est un exemple, c'est-à-dire qu'on sert, nous les parents, souvent d'exemple pour nos enfants. Ils nous voient vivre, ils nous voient faire, et du coup, ils ont envie de nous ressembler. Et je sais que vos fils sont également secouristes à vos côtés, Ariel Lévy.
Ouais, j'ai quatre de mes fils qui sont secouristes. C'est une grande fierté pour moi parce que d'abord, je les vois et des fois, je me dis qu'ils sont même mieux que moi. Et c'est ça, pour un père, c'est la plus grande fierté qui peut exister. Et ils sont aussi présents avec leur beeper et leur talkie-walkie sur la ceinture. Et ils sortent à des événements 24 heures sur 24. Là encore, hier soir, on était assis tous ensemble pour ouvrir le jeûne de Tisha B'Av. Et le beeper a sonné. Moi, je suis pas sorti parce qu'il n'y avait pas besoin. J'avais mes quatre fils ici qui ont rebondi, qui tout de suite sont montés en voiture et qui sont partis. Donc, ouais, il y a la relève. C'est pour moi, je sais qu'ils sont. Mais je pense que le plus beau dans ça, c'est que je n'ai jamais fait un effort pour ça. Je leur ai jamais demandé de le faire ou c'est quelque chose qui est venu naturellement. Dans mon livre, d'ailleurs, dans le livre que j'ai écrit, Tikkun Olam, je raconte là-bas justement. Mon fils aîné, Moshe Menachem, je pense qu'il a tellement vécu ces événements de me voir sortir au milieu d'une joie familiale, au milieu d'un kiddouche de Shabbat, au milieu de la nuit, au milieu de mon bain ou de ma douche, vite me mettre un habit sur moi et sortir comme un fou pour aller soigner quelqu'un. Il a tellement vu ça pendant
C'est ça.
son enfance que pour lui, c'était tout simplement naturel d'aller faire ce stage et de devenir un des meilleurs secouristes à Jérusalem aujourd'hui.
Alors, vous, l'organisation Sauveteurs sans frontières sauve des vies humaines partout dans le monde, mais sans distinction ni de race ni de religion. C'est vraiment une association. D'ailleurs, vous travaillez souvent main dans la main avec des dirigeants d'autres communautés, d'autres religions, d'autres pays.
Vous savez, c'est je pense que le principe de l'humanitaire, et malheureusement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans toutes les associations, mais on le voit dans beaucoup. Okay? Et j'ai été très surpris, très positivement, dans le dernier événement qu'il y a eu, enfin, le dernier événement, dans la guerre en Ukraine, quand on était sur la frontière entre la Pologne et l'Ukraine, de voir toutes ces ONG qui sont venues du monde entier. On a tout de suite vu, on voyait tout de suite les vrais humanitaires. Il y a des gens qui sont humanitaires dans leur sang. Et je pense que quelqu'un qui a un vrai humanitaire, qui a l'humanisme dans le sang, ne peut pas différencier entre des peuples, entre des races ou entre des couleurs. Ce n'est pas possible. S'il y a cette différence, ou s'il y a ce manque d'envie ou le manque d'énergie quand on va aller sauver quelqu'un d'autre parce qu'il n'est pas de ma communauté, ou de ma... alors ça veut dire qu'il faut vraiment se poser des questions. Il faut aller faire il faut aller faire autre chose. C'est quelque chose qui doit être... Vous savez, moi personnellement, je suis, comme vous avez dit, j'ai fait mes études rabbiniques, on peut tout de suite me dessiner en tant... Et très souvent, c'est quelque chose qui frappe beaucoup d'esprit chez les gens que je rencontre, c'est quand ils voient le visuel extérieur et ils voient après les actions. J'ai soigné des Palestiniens, j'ai soigné des Jordaniens, des Syriens. D'ailleurs, quand vous parlez de belle histoire, qu'est-ce qui peut être plus belle histoire que lorsqu'on va soigner des Syriens en Jordanie, à Mafraq, dans un endroit qui s'appelle Mafraq, c'est juste la frontière entre la Jordanie et la Syrie. Et comme 2 jours avant, j'étais à Sderot, j'ai raconté aux enfants que dans 2 jours, j'allais aller soigner des enfants syriens. Et un enfant de 9 ans, est venu vers moi, 10 minutes après, il m'a amené un dessin. Il m'a dit, j'ai dessiné ça pour les enfants de Syriens. Et quand j'étais en Syrie, dans une tente, dans un désert tout perdu, sec, et on avait soif, il faisait très chaud. Et j'ai vu ces enfants, je me suis rappelé de ce dessin qui était au fond de mon sac, et je l'ai sorti. Et je l'ai donné à un des enfants et je lui ai raconté. Je lui ai dit, tu sais, ce dessin, c'est un dessin d'un enfant qui a Sderot, et il souffre beaucoup de la guerre aussi, comme toi, parce qu'il y a des terroristes dans le sud d'Israël qui tirent des roquettes vers Israël, et cet enfant, il est prisonnier de ces terroristes. Et l'enfant, un quart d'heure après, il est venu vers moi et m'a donné une petite boîte en bois. C'est une petite boîte que lui-même il a fabriquée. Il m'a dit, ça c'est pour l'enfant qui m'a envoyé le dessin.
Oh, c'est beau,
Et
très beau.
je me dis, ben voilà, on a fait une action de Tikkun Olam. C'est quoi le Tikkun Olam? Le Tikkun Olam, c'est des fois on pense que c'est une très grande action et qu'il n'y a que des grandes personnes très importantes qui peuvent le faire. Non, c'est chacun de nous, avec un petit geste, avec un sourire, avec une parole. On peut faire un Tikkun Olam extraordinaire. Et c'est ça notre devoir. Notre devoir, c'est de faire le tikkun olam. Parce que comme j'ai dit au début, on fait tellement de mal à notre monde qu'il suffit de penser une fois par jour, OK, là maintenant, pendant ces 2 minutes qui arrivent, je vais essayer de faire une bonne action pour faire un tikkun olam, rectifier quelque chose dans le monde. Tikkun olam, c'est la rectification du monde. Je vais faire une action, un geste. Je vais appeler un ami pour lui monter le moral. Je vais aider une personne qui a besoin de moi. Je vais faire quelque chose de constructif parce que j'en fais tellement, je détruis tellement, il faut que je fasse au moins une fois par jour quelque chose qui construit.
On va se quitter sur cette idée magnifique du Tikkun Olam, de réparer le monde et réparer toutes les fautes et toutes les erreurs que l'on fait qui abîment le monde. Arié Lévi, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite encore une très longue route pour sauver de nombreuses vies humaines, vous et tous vos secouristes. Merci d'avoir été avec nous pour Yedia.
Amen. Merci beaucoup. Merci Emmanuel.
Au revoir.
Au revoir.